Alors, j'aimerais vous parler ce matin d'un thème que j'avais à cœur, qui parlait de vase et de potier. Oula, t'as déjà avancé dans les diapos là, c'est pas la toute première. Voilà. Donc, on va commencer par une lecture d'abord. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 9, les versets 19 à 23. Donc, Paul s'adresse aux Romains et il leur dit: Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Là, il parle de Dieu. Pourquoi Dieu nous blâmerait-il ou nous ferait-il des reproches? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Dans ces quelques versets de l'Épître aux Romains, là, Paul aborde une question un petit peu compliquée parfois, qui touche à la responsabilité à la fois de l'homme et de Dieu. Concernant la destinée des hommes, concernant le salut. Et pour expliquer son propos, vous avez vu avec moi, il utilise l'image du vase et du potier. Alors, dans les Écritures, des vases, on en trouve de différentes sortes, hein. Il y en avait de différentes matières, des matières les plus viles, comme le bois ou l'argile, comme des matières plus précieuses, comme l'or, l'argent, ou même des pierres précieuses. Vous vous souvenez peut-être du vase d'albâtre dans lequel était stocké le parfum que Marie de Béthanie a répandu sur les pieds de Jésus. Donc on a ces différents types de vases qui existaient et qui étaient associés chacun à des usages différents. Mais dans le passage qui nous concerne, là, Paul, lui, se concentre plutôt sur un certain type de vase, les vases d'argile. Pourquoi? Parce qu'il utilise cette image qui associe l'argile au potier, qui associe le vase à celui qui va le créer, celui qui va le former. Et il reprend là une image, une métaphore qu'on retrouve aussi déjà plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Et pour insister sur le fait que ce vase n'existe pas sans le potier et que il y a un lien étroit qui existe entre les deux. Et c'est ça qui va l'amener à attirer notre attention sur deux choses par rapport au vase. C'est d'une part l'origine des vases d'où ils ont été formés et ensuite leur destinée. Donc le premier point que je voulais voir avec vous, c'est le fait qu'il y a une même argile et un même potier pour tout le monde. Lorsque Paul attire notre attention sur l'origine du vase. Il le dit là, ils sont tous tirés d'une même masse. Dieu, le potier, peut faire avec la même masse d'argile ce qu'il veut. Il peut créer différents types de vases qui auront différents buts, différentes formes. Et c'est lui qui choisit ce qu'il va en faire. Mais tous, à la base, sont tirés de la même argile. Il n'y en a pas un qui est fait avec une matière plus précieuse que l'autre. Lorsque Dieu nous a créés, il nous a tous créés égaux devant lui. Bien sûr, nous avons tous des différences, nous sommes tous uniques d'une manière ou d'une autre, mais il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Devant Dieu, nous sommes tous au même niveau, nous avons tous été faits de la même manière. Et même si l'expression là de former les hommes comme des vases, c'est pas à prendre en sens littéral, mais ça nous rappelle quand même ce point commun que nous avons tous, que nous descendons tous d'Adam, qui était tiré de la terre. Vous vous rappelez ce verset dans Genèse au chapitre 2, au verset 7, où il est dit que l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Là, Dieu a littéralement rassemblé la terre pour en créer le premier homme, comme un potier aurait pris une masse d'argile, elle l'aurait mise sur le tour, commencé à la faire tourner, à la former avec les mains. Et Paul nous montre donc bien que par nous-mêmes, nous venons tous du même endroit. Ce qui fait la différence, c'est ce que Dieu a choisi pour chacun d'entre nous. C'est le plan que Dieu a formé pour chacun d'entre nous. Le vase lui-même, il n'est pas en mesure de dicter sa volonté, de dire au potier, ben non, moi je voudrais être plutôt comme ça, je voudrais être plus grand, je voudrais être plus petit, je voudrais être plus large, moi je préférerais plutôt être une assiette. Non, le vase, en soi, il n'existe même pas au début. C'est simplement un morceau d'argile, là, un morceau de pâte que le potier va devoir commencer à travailler. C'est le potier, lui, qui va décider, se dire, mais là j'ai envie de former plutôt un vase qui va servir à tel usage, plutôt un qui va servir à stocker des choses, plutôt un qui va servir, qui va être plus utilitaire. Et en fonction de ce vase, ben, il va accorder une attention différente, il va donner une forme différente. Mais en général, rien n'est laissé au hasard. C'est ce qu'on voit souvent quand on essaie de s'intéresser à différents métiers comme ça, d'artisanat, et puis qu'on a envie de s'y essayer en amateur. On fabrique un petit peu quelque chose, et puis à la fin, ouais, ça, suivant le talent de chacun, hein, ça peut ressembler plus ou moins à quelque chose. Mais surtout, c'est quand on commence à utiliser ce qu'on a fabriqué, on se rend compte que, ah oui, quand même, là, ça, j'aurais pu le faire différemment, ça aurait été plus utile. Ah, ça c'est ça me gêne. Alors que quand vous voyez un artisan qui maîtrise son art, qui l'a travaillé pendant des années, il ne fait rien au hasard. Il sait très bien qu'en formant le vase de telle manière, ben, ça va faciliter son utilisation. Un vase qui est plus pour des fleurs, bon, vous n'avez pas besoin qu'il soit très large. On va le garder plus petit. Un vase qui va servir à contenir quelque chose dans lequel on va devoir puiser régulièrement. Si le goulot en haut est trop petit, vous n'allez pas pouvoir aller chercher les choses qui sont dedans. Toutes ces choses-là, le potier, lui, il y réfléchit en même temps qu'il forme son vase. Il se dit, ah, mais là, il faut que je mette un peu plus de matière parce qu'il va falloir renforcer cet endroit-là du vase parce que c'est là qu'il y aura le plus de poids. Il faut que je mette peut-être des anses à cet endroit et que je les fixe bien pour que ça suffise en fonction du poids auquel c'est destiné à porter, etc. Toutes ces choses-là, nous, quand on regarde le vase, on ne le voit pas. On voit le résultat final. On va peut-être porter un jugement de valeur sur l'esthétique du vase. Mais derrière, le potier, quand il l'a travaillé, lui, il a pensé à beaucoup plus de choses. Il avait tous les détails en tête. Je sais que moi, quelque chose que j'aime bien faire, c'est travailler le bois, et notamment sculpter des petites choses comme des cuillères, des bols. Et je me suis rendu compte qu'au début, on se dit, ah, c'est facile, hop, je prends mon couteau, je donne une forme un peu arrondie en haut, un manche, voilà, on creuse un peu, c'est bon, ça fait une cuillère. Et puis j'ai discuté et j'ai rencontré des personnes qui faisaient ça depuis des années, qui en faisaient vraiment énormément, qui les vendaient. Et puis quand on discute avec eux, on se rend compte que, ah oui, mais là, moi je donne plutôt cette courbure à cet endroit-là parce que c'est plus agréable dans la main. Là, l'épaisseur du bol de la cuillère, il faut le travailler comme ça parce que c'est dans la bouche, on sent la différence, que c'est quand c'est un peu grossier, ça gêne, alors que là, hop, il y a la bonne courbe, etc. Et on se rend compte que voilà, il y a toutes sortes de petits détails auxquels il faut penser pour arriver à faire quelque chose de vraiment utile pour le but qu'on lui a donné. Et là, c'est notre potier, c'est le créateur, c'est Dieu qui réfléchit à tous ces détails-là, et nous-mêmes sommes incapables de savoir toutes ces choses-là. Parce que le potier, il sait déjà quelle est l'utilité qu'il va avoir pour le vase. Donc il sait ce dont va avoir besoin le vase. Alors que nous-mêmes, lorsque nous nous laissons former, on ne sait pas encore où on va, on ne sait pas encore ce qui nous attend, et on ne sait pas de quoi on va avoir besoin. Voilà pourquoi Paul reprend un petit peu l'avertissement que Dieu avait déjà donné dans l'Ancien Testament au travers du prophète Ésaïe. Dans Ésaïe au chapitre 45, au verset 9, Dieu disait « Malheur à l'homme qui intente un procès à celui qui l'a façonné, lui qui n'est qu'un vase parmi d'autres vases de terre. L'argile dit-elle au potier, que fais-tu ? Ou ton travail est mal fait ?» Non, l'argile n'est pas en mesure de faire ça. L'argile n'est pas en mesure de s'opposer au potier pour lui dire qu'il a mal pensé les choses. Et vous l'avez vu avec moi, c'était le début des versets de l'épître aux Romains qu'on a lu, hein, où Paul dit, mais est-ce que certains vont aller contester avec leur créateur? Est-ce que certains vont aller faire des reproches au créateur sur la façon dont ils ont été faits, sur le but qui leur a été donné? Non, ce serait complètement ridicule d'essayer d'imposer notre volonté à Dieu. C'est lui qui choisit la forme, c'est lui qui choisit l'usage qui sera donné à chaque vase, et il est le seul capable de le faire parce qu'il est le créateur. Nous, on est juste les créatures entre ses mains qui pouvons nous laisser façonner. Et notre intelligence ne peut pas rivaliser avec la sienne, notre connaissance ne peut pas rivaliser avec la sienne. Je veux dire, rien que le fait que lui sache ce qui nous attend, c'est déjà au-delà de nos propres capacités. Nous ne sommes pas capables nous-mêmes de savoir quel est notre futur, quel est notre avenir. Mais pourtant, Paul souligne que lorsqu'il insiste là-dessus, sur le fait que c'est le potier qui choisit comment ils veulent nous créer, ça amène, non, tu peux revenir à la diapo précédente, ça amène quand même à une question. Si c'est Dieu qui a tout choisi et qu'on est forcément soumis à sa volonté, comment est-ce qu'il pourrait nous faire des reproches? Comment est-ce que Dieu pourrait nous dire que c'est notre faute si on a mal tourné? C'est lui qui nous a fait comme ça? Dieu a déjà répondu à cette question dans le passé. Et j'aimerais voir avec vous d'autres versets de l'Ancien Testament, justement, où cette image du potier est aussi utilisée. C'est dans le livre du prophète Jérémie. Au chapitre 18, à partir du verset 1, l'Éternel s'adresse à Jérémie et voilà ce qui nous est rapporté. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi, descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'abracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Dans ces versets, Dieu lui-même se compare au potier et Israël à l'argile dans sa main. Et on pourrait essayer de pousser la métaphore de l'argile en réfléchissant un petit peu à tout ce que ça implique pour un potier de construire un vase, parce qu'on imagine souvent, quand on pense potier, argile, on imagine voilà, le potier qui est avec les mains posées sur l'argile, là, doucement, qui façonne le truc, mais faut pas oublier qu'avant, le potier, il a quand même malaxé bien l'argile, il a même tapé plusieurs fois pour l'assouplir. Quand il la forme, si vous regardez des vidéos de poterie, vous allez voir, il tape bien de tous les côtés pour arriver à lisser toutes les irrégularités, tout ça. Après, il faut la passer au four pour durcir, la rendre résistante à l'eau, etc. Donc bon, c'est juste une parenthèse que je fais. Je vous laisse réfléchir à tout ce qu'on pourrait mettre derrière. Là, c'est pas le but de cette métaphore. Ça serait la pousser un petit peu trop loin par rapport à ce que Dieu essaie d'enseigner au peuple d'Israël par l'intermédiaire de Jérémie. Mais moi, ce sur quoi je veux attirer votre attention dans ces versets qu'on a lus, c'est qu'il dit que parfois, le vase réussit pas. Il dit que le potier, il avait commencé à faire un vase et puis... Non, ça n'a pas fait ce qu'il voulait. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il réécrase l'argile et repart de zéro et il en refait un nouveau. Est-ce que ça veut dire que Dieu parfois réussit pas ce qu'il a prévu? Que Dieu parfois essaie de faire quelque chose et puis ça rate? Non, bien sûr que non. Dieu est tout à fait capable de réussir au premier coup tout ce qu'il entreprend. Mais lorsqu'il s'agit de façonner le cœur de l'homme, Dieu y a ajouté une dose de liberté et d'intelligence. Il a laissé l'homme libre de faire ses propres choix. Et c'est à cause de cette liberté que Dieu nous a donnée, de ce libre arbitre, que le vase, parfois, il ne veut pas se conformer à la volonté de celui qui l'a créé. Un peu comme si l'argile résistait au potier pour ne pas prendre la forme que le potier veut lui donner. Et en fonction du fait que le vase réussit tel que le potier l'avait voulu ou pas, le potier pourra choisir de revenir sur le plan initial. Il avait fait un premier essai pour un vase, et puis si le vase réussit pas, il repart à zéro, il en fait un autre. Et c'est ce que Dieu dit là vis-à-vis du peuple d'Israël, et que Paul soulignait aussi dans les versets qu'on a lus. Si vous lisez le contexte autour, Paul fait allusion à l'élection du peuple d'Israël et au fait que finalement, ce peuple d'Israël a fini par être rejeté pour que Dieu se forme un nouveau peuple, non pas sur la base de la loi, puisque Israël était le peuple de la loi, qui avait la loi de Moïse et qui essayait de s'y conformer, mais sur la base de la foi. Un peuple qui ne serait plus la descendance biologique d'Abraham, mais la descendance spirituelle d'Abraham. C'est un peuple que Dieu s'est choisi parce que ce peuple-là l'a choisi en retour. Et c'est là que Dieu nous montre que lorsque le plan ne va pas comme lui le désirerait, non pas parce qu'il a échoué, mais parce que les vases eux-mêmes se sont rebellés contre leur créateur, Dieu va pouvoir revenir sur son plan et et montre que bah, à l'époque, ça influait sur la façon dont Dieu traitait les différentes nations. Dieu avait, par l'intermédiaire de Moïse en particulier au début, lorsqu'Israël était prêt à entrer dans le pays promis, donné des avertissements. Choisissez la vie et non la mort. Choisissez d'écouter mes commandements, de les respecter, et vous vivrez dans le pays. Vous connaîtrez le bonheur, vous serez protégés de vos ennemis. Mais choisissez de me désobéir, choisissez de vous tourner vers les dieux des autres nations autour. Et qu'est-ce qui vous attend? Ben, vous serez dispersés, vous serez vaincus par tous vos ennemis aux alentours. Et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire du peuple d'Israël. Lorsqu'ils se sont détournés de Dieu, lorsqu'ils se sont tournés vers les idoles des autres tribus environnantes, c'est là que Dieu les a châtiés, c'est là que Dieu a envoyé l'envahisseur, c'est là que le peuple d'Israël s'est divisé et a été emmené en déportation, d'abord le royaume du Nord, puis même le royaume de Juda, et que le peuple d'Israël a presque disparu de la surface de la terre à cause de sa désobéissance à Dieu. Et cet exemple-là qui nous est donné vis-à-vis des nations auxquelles Dieu s'adressait dans l'Ancien Testament, ça s'adresse à nous aussi aujourd'hui, du point de vue spirituel. Bien sûr, certains parfois aimeraient mettre en avant que soumets-toi à Dieu et obéis à ses commandements, et il va te bénir financièrement, matériellement, etc. Non, c'est pas là-dessus que Dieu veut nous bénir aujourd'hui. Lorsque Dieu nous parle dans le Nouveau Testament, il nous parle de bénédiction spirituelle. Il nous parle de bénédiction concernant notre éternité. Et de la même manière qu'Israël ou les autres peuples environnants ont dû assumer la responsabilité de leur choix et les conséquences de leur choix, de la même manière, nous aussi, nous sommes face à un choix et il faudra en assumer les conséquences dans l'éternité. Et c'est pour ça que Paul parle là de deux types de vases, finalement, dans ces premiers versets qu'on a lus. Des vases réservés à la colère de Dieu et des vases de miséricorde. Et il nous dit en plus que ces différents vases contribuent tous à un même but, qui est de révéler la personnalité de Dieu, de révéler les différentes facettes de sa personnalité, aussi bien sa justice que son amour et sa compassion. Alors maintenant qu'on a ces deux types de vases devant nous, j'aimerais me pencher sur le premier auquel Paul fait allusion, les vases de colère. Cette première catégorie, entre guillemets, c'est ceux qui sont destinés à la colère de Dieu. Dans le verset 22 qu'on a déjà lu, si vous voulez le relire, il nous est dit: que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition? Tous les vases, ils ont été créés pour un but. Alors, il y a un but précis pour chaque vase, mais il y a aussi un but global qui est donné, qui est de révéler la gloire de Dieu. Et là, il est dit que ceux-là, ils ont été créés pour la colère de Dieu, pour la perdition. Alors, certains pourront dire c'est Dieu qui avait choisi d'avance. Je pense qu'avec ce qu'on a vu, il y a quand même notre part qui est importante dedans, hein. C'est nous qui choisissons de nous soumettre ou pas. Et donc, d'une certaine manière, c'est nous qui choisissons d'être un de ces vases de colère, mais Dieu, lui, sait d'avance quel va être notre choix. Et parce qu'il sait d'avance quelle est notre destinée, mais il prépare aussi, il a préparé ces vases pour ce qui les attendait. Ce sur quoi Paul semble insister dans ces versets aussi, c'est que ces vases, ils ont tendance à rejeter leurs responsabilités. C'est eux en particulier qui posent les questions que Paul disait au début, mais qui commencent à accuser Dieu. Et si c'est Dieu qui m'a créé comme ça, moi j'y suis pour rien. C'est eux qui cherchent à rejeter la responsabilité sur Dieu pour se dédouaner. Et pourtant, le simple fait qu'ils puissent se rebeller contre Dieu et l'accuser, ça montre bien que Dieu leur a laissé la liberté de parler, d'agir comme ils le veulent. Si c'est Dieu qui nous avait créé tels des robots là, soumis à sa volonté absolue et sans la moindre capacité de choisir. Alors, la terre entière serait soumise à sa volonté, la terre entière serait convertie, on n'aurait pas 50 religions qui existeraient, on en aurait une. On serait tous croyants, on serait tous soumis à Dieu. Les églises, il y en aurait à tous les coins de rue parce que tout le monde... Parce qu'il n'y en aurait pas assez, tellement il y aurait de personnes les dimanches pour se tourner vers lui. Mais c'est pas ce que Dieu a voulu. Dieu n'a pas voulu nous forcer à nous soumettre à lui. Il a voulu que nous choisissions de nous soumettre à lui. Et que nous choisissions non pas par crainte, non pas par peur de ce qui pourrait nous attendre, mais par amour. Oui, Dieu ne force personne à l'accepter ou à le rejeter à l'inverse. Ces hommes-là qui cherchent à accuser Dieu, ben, finalement, ils essaient de rejeter la faute sur leur Créateur, mais Paul souligne bien que ce n'est pas Dieu qui est coupable, c'est eux. Ce sont les hommes toujours qui sont coupables devant Dieu. Est-ce que Dieu pourrait être injuste parce qu'il condamne certains, alors que c'est lui qui nous a tous créés ? Pourquoi est-ce que certains iraient en enfer ? Non, Dieu est injuste de faire ça. Non. Déjà, si Dieu s'en tient à ce que nous méritons tous, eh bien tous, on va au même endroit qui est l'enfer, justement. Dieu n'est pas injuste de condamner certains. Loin de là. C'est ce que nous méritons tous. À la rigueur, si on voulait parler d'injustice, ce serait de dire, mais pourquoi est-ce qu'il y en a certains qui sont sauvés ? Et là, ce n'est pas une question d'injustice, c'est une question de grâce. Parce que Dieu a payé le prix qu'il fallait pour pouvoir sauver ceux-là. Oui, Dieu est juste. Et ce verset-là, que dire si Dieu a choisi cela ? Certains attirent l'attention que sur le fait que le texte original, c'est juste « si Dieu a choisi ça » et qu'il manque la fin de la phrase. « Si Dieu a choisi, alors quoi ?» Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion ? Et la conclusion la plus évidente au vu de ce que dit Paul, c'est que ben, si Dieu a choisi de faire comme ça, on n'a pas d'objection à lui faire. Si Dieu a choisi de faire comme ça, c'est parce qu'il est juste. Si Dieu a choisi de faire comme ça, c'est parce que c'était sa volonté. Point. Et finalement, si Dieu condamne certains, ben, c'est parce que ceux-là ont choisi, comme le peuple d'Israël à l'époque, comme il le dit dans les versets et comme on l'a vu dans les versets du prophète Jérémie, c'est parce que ceux-là se sont coupés des promesses de Dieu et ont choisi de refuser sa grâce pour, à la place, s'amasser un trésor de colère. Ça, c'est une expression qu'il donne dans un autre passage, dans Romains, au chapitre 2. Quand on lit les versets 4 à 8, il dit « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. » Ces vases-là, ils sont responsables de ce qui leur arrive. Ils ont choisi de continuer à s'amasser ce trésor de colère, à accumuler la colère de Dieu à leur égard. C'est pas Dieu, lui, qui s'acharne contre eux. C'est pas Dieu qui a envie absolument de les enfoncer davantage, de plus en plus. Non, c'est simplement que ils refusent l'intervention de Dieu. Ils refusent que Dieu leur vienne en aide. Ils refusent la grâce que Dieu est en train de leur proposer. Et lorsqu'on parle de ces vases de colère qui s'entêtent dans cette voie-là, c'est même pas forcément quelque chose de choquant extérieurement. On parle pas là des plus grands criminels de l'histoire. Simplement le fait de ne pas accepter Dieu dans sa vie, c'est ça, continuer à s'endurcir vis-à-vis de Dieu. Le fait que lorsque Dieu s'adresse à nous et nous dit « mais choisis la vie et non la mort », on préfère dire « non, je préfère rester dans ma situation actuelle, j'ai pas envie de chercher comment me rapprocher de toi », eh bien ça, c'est s'entêter dans cette voie-là et continuer à aller vers la perdition. Dieu, lui, au contraire, il a pas du tout envie que nous continuions dans cette voie-là. Lui, ce qu'il désirait, c'est plutôt que tous, le plus grand nombre, le choisissent et soient sauvés. C'est ce que Pierre dit dans sa deuxième épître, au chapitre 3 et au verset 9, lorsqu'il répond à ceux qui disent « mais le retour de Jésus, ouais, ça fait un moment qu'on attend, on n'a jamais rien vu, et il ne se passe rien. » Et qu'est-ce que leur répond Pierre ? Donc dans 2 Pierre, au chapitre 3, verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ce que Dieu cherche, c'est pas à nous condamner tous pour le plaisir. Dieu ne prend aucun plaisir à condamner les hommes. Au contraire, depuis le début, il tend la main en disant « Mais reviens vers moi, abandonne tout ça, accepte ce que j'ai fait pour toi à la croix en envoyant mon fils mourir. Il a payé déjà. T'es pas obligé de rester sur cette voie-là. T'es pas obligé d'aller jusqu'au bout là, de cette voie-là. Tu peux changer, tu peux être transformé, mais c'est ton choix. » Et ce qui me touche encore plus, c'est de voir qu'il nous est dit dans ces versets-là de l'Épître aux Romains, il nous est dit que Dieu a supporté avec une grande patience ces vases de colère. Il n'est pas dit qu'il les a formés parce qu'il allait simplement les anéantir derrière, non. Il les a supportés avec une grande patience. Même vis-à-vis de ces vases de colère, Dieu fait preuve de compassion. Il fait preuve d'amour parce qu'il aurait pu les anéantir immédiatement, mais non, au contraire, il les a supportés. Et encore plus, il insiste, si on va dans une traduction encore plus littérale, il y a la Darby en français ou il y en a d'autres en anglais, si vous voulez relire avec moi les versets 22 et 23. Je dis, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère, tout préparé pour la destruction, et afin de faire connaître les richesses de sa gloire dans les vases de miséricorde qu'il a préparés d'avance pour la gloire. Dieu a supporté ces vases de colère afin de faire connaître sa gloire au travers des vases de miséricorde. Lorsque Dieu supporte ceux qui s'opposent à lui, c'est non seulement parce qu'il aimerait les sauver, mais c'est aussi en pensant à tous ceux qui, au contraire, vont pouvoir être touchés et rachetés grâce à cette patience qu'il manifeste. On l'a vu dans l'Épître de Pierre, il dit qu'il use de patience parce qu'il veut que le plus grand nombre soit sauvé. Et là, il manifeste sa colère vis-à-vis de cela, après les avoir supportés patiemment pendant longtemps. Parce que cela aussi contribue à manifester sa gloire. En fait, même lorsque Dieu montre sa colère, il manifeste une partie de sa gloire au travers de sa justice, mais aussi ça contribue à faire ressortir encore plus, par contraste, son amour et sa miséricorde. Lorsque la colère de Dieu s'abat finalement sur les hommes et sur tous ceux qui se sont rebellés contre lui lors du jugement dernier, c'est pas un échec de la part de Dieu. C'est pas parce que Dieu a échoué à convaincre les hommes. Mais ça fait aussi partie du plan qu'il avait, qu'il serait glorifié aussi bien par ceux qui seraient sauvés que par ceux qui seraient perdus. Ça fait partie intégrante du plan de Dieu et ça contribue à faire encore plus ressortir vraiment la gloire de l'amour de Dieu pour nous. Enfin, après avoir parlé des vases de colère, la deuxième catégorie que Paul oppose, ce sont donc ces vases d'honneur et ces vases de miséricorde. C'est eux qui constituent d'une certaine manière le but ultime du plan de Dieu, ces hommes et ces femmes sur lesquels Dieu déverse sa grâce et manifeste son amour. Ceux-là, ils sont appelés et préparés pour participer à la gloire éternelle de Dieu. Mais ça ne doit pas nous pousser à penser que nous-mêmes pouvons nous en glorifier. Dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 2, dans les versets 20 et 21, Paul dit ceci. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Un vase, par définition, c'est un contenant. C'est quelque chose qu'on va pouvoir remplir. S'il n'est pas creux, on n'appelle pas ça un vase. Vous êtes d'accord quand même ? Non, bon, ça va. Je ne sais pas, je ne vois pas de réaction, alors parfois je me pose des questions. Donc, un vase, c'est un contenant. Ça veut dire qu'il est amené à contenir quelque chose. On est amené à le remplir avec quelque chose. Et c'est ce contenu qu'on va mettre dans le vase qui fait l'utilité du vase. Si on n'a rien à stocker, on n'a pas besoin du vase. C'est parce qu'on a des choses à mettre dedans qu'on a besoin du vase. Et c'est ce qu'on met dedans qui va aussi donner au vase sa valeur. Un vase qui est amené à contenir des choses précieuses, on va y accorder beaucoup plus d'attention, on va en prendre beaucoup plus soin qu'un vase qui est amené à contenir des déchets. Un vase dans lequel on met juste les déchets pour aller les jeter après à la poubelle, on le laisse dans un coin, on n'y fait aucune attention. S'il est un peu amoché, c'est pas grave. Un vase qui va contenir un produit précieux, quelque chose comme ça, là, on y fait beaucoup plus attention. Et c'est d'autant plus vrai en ce qui nous concerne, parce que même si Paul, là, dans ses versets de l'Épître à Timothée, fait allusion à des vases d'or et d'argent, il ne faut pas oublier que nous ne sommes que des vases de terre. Et que, en ce qui nous concerne, ce n'est pas nous qui avons de quoi faire de nous un vase d'honneur. Ce n'est pas nos propres qualités qui nous attirent l'honneur comme ça, comme si on était des vases d'or à mettre en avant. Regardez comme ce vase-là, il est beau, il a été fait avec quelque chose de supérieur aux autres. C'est une matière quand même beaucoup plus noble. Non, c'est pas le fait que nous sommes confectionnés avec des matières différentes. On l'a dit, on est tous de la même argile. Mais c'est ce qu'on va mettre dans chacun de ces vases qui fait la valeur du vase. Et dans la deuxième épître aux Corinthiens, Paul insiste sur ce contenu du vase. Dans 2 Corinthiens au chapitre 4, les versets 6 et 7, il dit « En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. » Et ensuite il dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. » Pour Paul, nous ne sommes pas des vases glorieux. Nous sommes que des vases de terre qui, si on n'y mettait pas quelque chose d'important dedans, n'auraient aucune valeur. Ça servirait juste à les jeter ensuite. Mais c'est parce que dans ces vases de terre, Dieu a choisi d'y placer un trésor que ces vases-là gagnent en valeur. Finalement, c'est ça qui différencie ces vases de colère des vases de miséricorde. C'est pas le fait qu'un des deux vases est plus précieux que l'autre. C'est ce qu'on met dedans qui fait la différence. Et ce qu'on met dedans, là, Paul nous le dit, c'est cette connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ lui-même qui est déversé en nous. C'est le Saint-Esprit qui est versé en nous. C'est toute la grâce et les bénédictions qu'il y a au travers de la connaissance de Dieu qui peut nous remplir et qui attire sur nous cette gloire. Une gloire qui ne vient pas du vase lui-même, mais qui vient du potier qui a non seulement formé le vase, mais qui ensuite le remplit. Voilà pourquoi Dieu nous appelle à conserver notre vase pur, parce que lorsqu'on va mettre quelque chose de précieux dans un vase, ben on ne laisse pas ce vase se remplir de poussière, on ne laisse pas le vase se salir. Au contraire, ce qui est à l'intérieur, c'est tellement précieux qu'on va faire attention à ce que ça soit pas contaminé, pollué par autre chose. Dans l'Ancien Testament, il y a l'image parfois du parfum qui peut être dégradé par quelques toutes petites choses, quelques mouches mortes dans le parfum, et ça y est, vous pouvez le jeter à la poubelle. Ça, il suffit de pas grand-chose pour que ce qui était censé avoir une bonne odeur, d'un seul coup, ça devienne une odeur infecte. Et lorsque Dieu déverse en nous toute cette gloire, toute cette grâce, ben il faut qu'il trouve un vase qui soit propre, un vase qui soit prêt à recevoir ce contenu précieux. Alors, à la base, ce n'est pas nous qui allons laver le vase. À la base, nous étions tous des vases qui étaient sales. À la base, on était tous des vases salis par le péché. Mais Dieu nous a lavés par sa parole, nous a lavés par le sacrifice de Jésus-Christ. Il nous a complètement transformés. Il a fait de nous des vases tout propres, tout neufs. Mais derrière, il nous dit, fais-y attention maintenant à ce vase. Tu te rends compte comment j'ai changé le vase, comment j'ai fait d'un vase de colère un vase de miséricorde. Maintenant, il faut en prendre soin de ce vase. Ce vase-là, il faut veiller à ce que tu laisses rentrer dedans. Voilà pourquoi il dit que si on veut être un vase d'honneur, il faut se conserver pur en s'abstenant d'un certain nombre de choses qu'il a citées avant, qui sont des choses qui sont liées à la chair, au péché. Si nous voulons être vraiment ces vases d'honneur, continuer à l'être, nous devons faire attention à ce que nous laissons rentrer dans notre vase. Et j'aimerais terminer sur cette pensée-là que Paul, finalement, dans cette phrase, il dit que ces vases aussi, ils ont été préparés d'avance. Dieu les a préparés d'avance pour la gloire. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ça veut dire que Dieu, comme j'ai dit, il sait à quelle destinée est rattaché chaque vase. Certains pour la colère, certains pour la gloire. Mais puisqu'il sait à quoi ils vont servir pour l'éternité, il les prépare aussi pour ça. Et ça veut dire que pour nous qui avons choisi d'être des vases de miséricorde, pour nous qui avons choisi de servir à sa gloire, eh bien Dieu nous prépare, il prend soin de nous. Il continue de façonner le vase. Le vase, il n'a pas encore été complètement cuit au feu, là. Il y a encore moyen de le travailler, il y a encore moyen de le faire évoluer pour arriver à en faire le vase parfait que nous serons dans l'éternité. Oui, Dieu prend soin de chacun des vases qu'il a créés. Il s'en occupe et il veille sur eux avec amour pour que rien ne vienne les détourner de ce pourquoi il les a créés. Alors, pour répondre à cette question que Paul rappelait, pourquoi est-ce que Dieu nous condamnerait, lui qui est souverain? Est-ce que c'est pas sa faute? Paul a donné une réponse, il a dit non. La responsabilité, là, elle est en chacun de nous. C'est à nous de choisir si nous voulons être des vases de colère ou des vases de miséricorde, des vases d'honneur. Le message de Paul, parfois, si on lit superficiellement, on peut dire, ben, il dit, mais pourquoi est-ce que Dieu aurait choisi, est-ce que Dieu est pas coupable? Et on a l'impression qu'il répond, ben, hey, c'est la volonté de Dieu, tu le prends comme tel et tu t'écrases, tu n'as rien à dire. On a l'impression, parfois, les deux premiers versets que j'ai lus, il y a la question des incrédules qui vont dire, mais pourquoi est-ce que Dieu nous fait des reproches? Et que Paul lui dit, mais qui tu es pour répondre au potier? Mais je pense que Paul a donné une réponse quand même qui est plus poussée que ça. Il nous dit pas, non mais, hey, c'est Dieu qui a choisi, maintenant tu lui fais confiance et t'as pas un mot à dire. Non, au contraire, il a souligné quand même que il y avait cette responsabilité de notre part et puis il y a aussi cet amour de Dieu qui fait que Dieu n'a pas envie simplement de nous écraser, de nous forcer à nous soumettre, mais qu'au contraire, il a envie qu'on comprenne qui il est, il a envie qu'on comprenne pourquoi il nous a créés, il a envie qu'on rentre dans ce but qu'il nous avait donné. Cette destinée, finalement, ne dépend que de nous. Dieu, lui, il a déjà fait tout ce qu'il avait à faire pour que cette même argile qui était à l'origine puisse finir d'un côté ou de l'autre. Il a, à la croix, il a fait ce qu'il fallait pour que les vases de colère puissent être transformés en vases de miséricorde. Lui, il a fait toute sa part. Il n'a rien de plus à faire pour permettre cela. Tout ce qui reste à faire, ça dépend de nous aujourd'hui. C'est à nous de réaliser que lorsque nous opposons à Dieu, nous sommes ces vases de colère qui continuent d'accumuler ce trésor de colère. Mais lorsque nous revenons vers lui avec des cœurs repentants, alors nous sommes ces vases de miséricorde qui sont toujours plus remplis de cette gloire de Dieu et remplis à tel point que cette gloire a fini par déborder. Cette gloire, elle n'est pas là pour que simplement on la cache à l'intérieur. Elle n'est pas là pour que, une fois qu'on a rempli le vase, hop, allez, on le ferme, on scelle tout ça, on le met dans un coin et on le garde bien, bien à l'abri pour plus tard. Non, on est des vases qui sont censés rester ouverts pour que ce qu'il y a à l'intérieur, ça se voit, pour que ce qu'il y a à l'intérieur, ça se manifeste. Si on veut pouvoir être des vases d'honneur qui reflètent la gloire de Dieu, il faut bien que les gens y voient la gloire qu'il y a à l'intérieur. Si on la masque, on est de l'extérieur, on est juste un vase et on ne sait pas à quoi il sert, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Non, nous sommes des vases qui sont censés être remplis de la gloire de Dieu pour que cette gloire puisse se déverser autour de nous et se manifester. Pour que les gens autour de nous puissent voir la gloire de Dieu en nous. Non pas notre propre gloire personnelle, mais la gloire de notre Sauveur. Dans les deux cas, qu'on le choisisse ou pas, Dieu sera glorifié. Mais je pense que c'est notre intérêt de le glorifier déjà aujourd'hui, en laissant cette gloire nous pénétrer et se répandre tout autour de notre vie. Que Dieu nous aide vraiment à réaliser combien nous pouvons être des vases glorieux entre ses mains, lorsque nous nous laissons façonner par lui, lorsque nous le laissons nous remplir, lorsque nous le laissons diriger toute notre vie. Le choix nous appartient et c'est à nous d'agir en conséquence. Que Dieu nous aide vraiment à laisser son esprit nous remplir, son esprit nous remplir de cette vie, de cette puissance qui vient d'en haut pour qu'elle déborde de notre vase. Et que les vases que nous sommes puissent même disparaître tellement ça déborde. Vous avez déjà vu parfois quand vous mettez un verre sous un robinet, si vous ouvrez le robinet à fond, au bout d'un moment, non seulement c'est rempli, ça déborde, mais ça déborde tellement que le verre, on ne le voit presque plus. Il y a de l'eau qui jaillit par-dessus. On oublie que le verre, il est là. Et bien là, c'est la même chose avec Dieu. C'est qu'il veut nous déverser tellement de sa puissance en nous, tellement de sa grâce en nous, que ça déborde, et le vase, on ne le voit même plus. On voit juste cette grâce qui déborde de nos vies. Amen. Ô Seigneur, nous te bénissons parce que tu es venu intervenir dans notre vie. Nous qui étions tous des vases de colère, tu as permis que nous puissions faire ce choix de changer de destinée, Seigneur. Tu as permis que nous puissions faire ce choix de devenir des vases d'honneur, des vases de miséricorde, des vases qui reflètent ton amour et ta grâce. Ô Seigneur, combien nous te sommes reconnaissants pour cette opportunité que tu nous as donnée, pour cette possibilité que tu nous as donnée de revenir dans ta présence, Seigneur. Et combien nous voulons te laisser nous façonner, nous voulons te laisser nous travailler pour nous préparer encore plus à cette gloire, à partager cette gloire avec toi pour l'éternité, Seigneur mon Dieu. Oui, nous voulons voir cette gloire nous remplir déjà aujourd'hui. Nous voulons voir cette gloire de Dieu se répandre dans chacun de nos cœurs, Seigneur mon Dieu, et déborder, se manifester au monde, Seigneur mon Dieu. Oui, tu as choisi dans ton amour, dans ta grâce, de te servir de chacun d'entre nous pour tes plans, Seigneur, pour accomplir tes plans sur cette terre, Seigneur. Et nous voulons nous soumettre à toi, Seigneur. Nous ne voulons pas être cette argile qui s'oppose au potier et qui ne se laisse pas façonner comme il le voudrait. Mais au contraire, nous voulons simplement nous laisser travailler par tes mains, Seigneur, pour que tu puisses faire de nous ce que toi tu as décidé, Seigneur, et que tu puisses nous utiliser de la meilleure manière qui soit, Seigneur mon Dieu. Oh, quelle grâce nous avons de t'appartenir, Seigneur. Quelle grâce nous avons d'être entre tes mains, protégés par toi, façonnés avec amour, Seigneur. Et nous voulons t'apporter toute notre reconnaissance ce matin pour cela. Oh, sois béni, remplis chacun de nos cœurs encore ce matin. Remplis les cœurs de chacun, et en particulier si certains n'ont pas encore fait ce pas-là de changer de voie, de se donner à toi pour se laisser remplir par toi. Eh bien, donne-leur de faire ce choix ce matin, Seigneur mon Dieu, que tu puisses vraiment toucher chacun de nos cœurs, Seigneur mon Dieu, et remplir chacun d'entre nous par ton esprit, Seigneur. Amen.